Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série concernant quelle est la suprême intention. Et nous pourrions donner comme titre à notre étude de ce matin « Courir vers le but ». Dès le début, trois préoccupations ont dominé notre étude. D'abord la recherche. Premièrement, la recherche d'une origine juste. Deuxièmement, d'un ensemble harmonieux où chaque partie ait sa place et son rôle. Et troisièmement, d'une vision convenablement ajustée à son intention suprême. Si nous continuons à observer les choses de son point de vue à Dieu, nous constatons qu'au cours des siècles, les hommes ont toujours couru avec succès quand leurs yeux étaient fixés sur son but. Alors que pour beaucoup, il semble y avoir de nombreux buts pour celui qui a son centre en Dieu, il n'y en a aucun. Aucun véritable but. Il n'y a que le sien qui compte. Examinons maintenant trois lois auxquelles ses fils et ses filles sont toujours soumis, ceux qui ont vraiment résolu de courir vers le but. Nous devons prendre garde de ne pas exhorter les hommes à entreprendre la course annoncée avant d'avoir été mis sur la bonne piste. Il est donc très important d'observer au préalable la condition suivante. Nous devons avoir fait l'expérience de la grâce de Dieu en recevant le don de la vie, alors seulement, nous pourrons prendre le départ, accomplir le dessein de notre vie et atteindre l'objectif divin. Il y a en général deux groupes de personnes qui se méprennent sur le but de cette course. D'une part, il y a ceux qui ne sont pas régénérés et qui essayent de courir avant d'avoir connu la grâce de Dieu, s'imaginant que le but est d'aller au ciel et de gagner son salut. Et en plus, d'autre part, il y a ceux qui savent qu'ils ont reçu le don de la vie éternelle uniquement par grâce et elles sont résolues à atteindre le but de leur vocation céleste, mais qui n'ont pas été éclairées sur la manière dont ils doivent entreprendre la course. Les deux groupes insistent sur certains éléments qui ne sont pas en harmonie avec l'ensemble du plan de Dieu. Voyez-vous, puisque nous sommes au clair sur la question de la grâce, concentrons-nous maintenant toute notre attention sur la nécessité d'un but à atteindre quand on entreprend une course. Considérez un individu, par exemple, qui est tenté par, l'escalade de la plus haute montagne du monde, l'Himalaya. Il en fait bientôt le but de sa vie. Il n'aura point d'autres ambitions. Après des échecs répétés, il finit par réussir et le voilà triomphant dans l'air raréfié de sa conquête. Son dessein est enfin réalisé. Quel en est l'effet? Réfléchissez à tout le temps qu'il a passé à préparer son expédition, à s'entraîner physiquement. Pensez à toute la force qui n'a cessé de se développer dans tout son être tant qu'il avait son but devant lui. Maintenant, il y est arrivé, enfin, il est arrivé. Et l'intérêt décroissant face à l'existence, l'amoindrissement des ressources physiques pour le stimuler, la vie désormais sans discipline, aboutissent à une atrophie générale. Pourquoi cela ? Mais parce que il n'a plus désormais pour le provoquer cette fameuse puissance d'attraction d'un but à vouloir à tout prix atteindre. Ou bien regardez cette communauté de croyants. Ils ont été gagnés à la nécessité de construire une belle église. Comme ils sont étrangement unis devant les obstacles à surmonter, ne ménageant, on peut bien le dire, ni leur temps, ni leurs ressources pour mener à bien leur entreprise. Et enfin, l'objectif est finalement atteint. Le dimanche de la dédicace, les portes s'ouvrent toutes grandes devant eux et ils s'installent pour jouir ensemble du fruit de leur labeur. Mais avec le temps qui passe, n'ayant pas d'autre but devant eux, ils s'amollissent peu à peu, leur vigueur morale et leur consécration sans réserve s'usent, et comme le but auquel ils s'étaient consacrés n'était pas le but de Dieu, ils constateront à la réflexion que sur une telle voie, rien n'est plus néfaste que le succès. Pardon. On observe ainsi, de temps à autre, un affaissement dans la résolution et le mordant qu'on avait constaté chez un individu ou dans une communauté. Peut-être ferions-nous bien au point où nous sommes parvenus d'en reconnaître les symptômes et d'en discerner les causes. Nombreux sont les chrétiens qui ont laissé certains objectifs devenir leur but, et cela au lieu de les considérer comme des moyens d'atteindre un objectif beaucoup plus lointain qui est l'accomplissement de son dessein à lui, du Seigneur. Ayant obtenu l'assurance de leur salut, ils se sont installés tranquillement, ou bien ils ont compris et accepté une vie de séparation et ils se sont installés, ou encore ils ont fait l'expérience de l'onction et de la plénitude de l'Esprit-Saint et ils se sont installés définitivement. Ayant terminé leur nouvelle église, ayant obtenu le minimum de fréquentation envisagé et couvert leur budget missionnaire, ils n'ont plus d'ambition dans la vie. Ils avaient voué tout leur intérêt et toutes leurs ressources à un projet ou à une personne qui leur en a, on peut dire, qui leur en paraissait digne, absolument, au lieu de s'arrêter à la seule personne très importante qui est Jésus-Christ. On est davantage préoccupé de recevoir les effets de la grâce de Dieu que de donner et de découvrir par là le vrai sens de la vie. Voyez-vous, quand les gens n'ont ni but suprême, ni aspiration spirituelle, il leur faut du mouvement. C'est la forme que prend alors toute leur activité. Au lieu de se concentrer sur l'accomplissement de la volonté du Père, ils vont d'une chose à l'autre et appellent cela marcher. Où ils vont, ils ne le savent même pas, mais ils sont à coup sûr en train d'avancer sur leur voie. ceux qui ne trouvent pas dans la vie le sens clair d'une destinée à réaliser ne peuvent au fond jamais dire qu'ils font des progrès dans toute cette course. S'il n'y a pas de course ni de destination connue, comment peuvent-ils mesurer s'ils se rapprochent du but ou non ? Dans de telles circonstances, la vie ne peut que distiller l'ennui et devenir insipide et absurde. Ne soyons donc pas comme le sculpteur qui travaillait un bloc de marbre et faisait voler les morceaux en éclats tout le long de la journée et qui répondait à quelqu'un qui voulait savoir ce qu'il faisait. Eh bien, voyez-vous, à vrai dire, je ne sais pas très bien. Je n'ai pas vu les plans. Oui, nous sommes ainsi amenés à nous poser cette importante question : jusqu'à quel point Dieu se propose-t-il de nous révéler ses plans ? Devons-nous travailler à l'aveuglette, dans une pieuse confiance que lui, du moins, le maître architecte, sait à quoi il travaille et que, quant à nous, il doit nous suffire de recevoir chaque matin les ordres pour la journée. Et c'est là un régime qui peut convenir à un serviteur. Mais nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes devenus des fils. Notre perspective est glorieuse. Nous sommes appelés à régner en ce grand jour où les fils de Dieu seront manifestés. Quand nous serons prêts à comprendre, parce que notre sensibilité se sera accrue, alors Dieu ne manquera certainement pas de nous révéler les principes sur lesquels il travaille et même les modèles qu'il a conçus et dont il s'inspire. Nous trouvons ici une des lois de l'activité divine. Dieu commence par nous faire voir le bouton. Et à mesure que notre capacité de perception se développe et que notre discernement s'affirme, le bouton s'ouvre, et vous avez compris, et la fleur, elle peut enfin s'épanouir et va nous révéler notre place dans son intention suprême. Nous pouvons voir ces principes à l'œuvre dans les quatre exemples suivants. Par exemple, Abraham et Israël, l'apôtre Paul et l'Église. Dans chaque cas, nous voyons Dieu entrouvrir le secret de ses intentions, puis toujours attendre avant d'en donner la révélation complète et de voir si les intéressés marchent dans l'obéissance. Combien en ont-ils compris au moment du départ ? Combien sont ceux qui ont vraiment compris ? Assez en tout cas pour subir l'attraction de la pensée de Dieu. Et pour chacun d'eux, la révélation est progressive afin que soit stimulée leur résolution d'atteindre ce fameux but. Donc, nous avons dit que nous avons premièrement Abraham. Lorsque Dieu, notre Père, appela Abraham à être l'ombre terrestre de lui-même, il l'informa d'abord qu'il serait le père de nombreuses nations. Mais il s'écoula bien des années avant qu'Abraham fût capable d'embrasser tout ce que Dieu entendait par cette révélation initiale. Finalement, après de nombreuses expériences et plus d'un écart, après le suprême abandon de ses espérances sur la montagne de Moridja, nous voyons les yeux d'Abraham s'ouvrir enfin et apercevoir le but de Dieu. C'est dans la mesure où il marcha dans l'obéissance que ce dessein fut enfin réalisé par lui. Deuxièmement, nous avons Israël. Regardez comment Dieu a cherché à obtenir d'Israël qu'il soit sensible à son but, à l'apprécier. Après l'avoir délivré de l'Égypte, il lui parla au Sinaï, lui faisant savoir qu'il devait être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, selon Exode chapitre 19, versets 5 et 6, donc un trésor particulier pour lui. Mais nous constatons qu'à la suite de ses désobéissances répétées, ses capacités de perception se sont engourdies et son élan s'est brisé. L'apôtre Paul se sert d'Israël dans 1 Corinthiens chapitre 10, à la fois comme d'un exemple et comme d'un avertissement. Et nous donc n'allons pas déchoir comme lui et marquer l'intention suprême de Dieu. Et surtout, peut-être même manquer l'intention suprême de Dieu. Aussi, je répète cette phrase pour qu'elle soit bien comprise. Notre apôtre Paul, il se sert d'Israël dans 1 Corinthiens chapitre 10, à la fois comme d'un exemple et comme d'un avertissement. Aussi, nous n'allons pas déchoir comme lui et de manquer l'intention suprême de notre Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, nous est-il dit, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Oui, en effet, tous ceux qui combattent s'imposent, on le sait, toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne qui est, soyons bien sincères, et ne disons pas des mensonges, une couronne qui est uniquement corruptible. Mais nous, chers amis, faisons-le, mais faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25. Ce n'est certainement pas du salut que l'apôtre Paul parle ici. Il montre comment Israël, quoique délivré de l'Égypte, erre dans le désert et se révèle absolument inapte à réaliser le dessein de Dieu. Il n'est pas question de la perte du don du salut, mais non. Ce qui préoccupe l'apôtre Paul ici, c'est la crainte d'être pour finir réprouvé comme Israël et de ne pouvoir réaliser l'intention suprême de Dieu. Troisièmement, nous avons encore l'apôtre Paul. Regardez cet homme immédiatement après son expérience du chemin de Damas. N'oublions pas cela. Ananias s'adresse à lui prophétiquement, lui présentant sa vocation et lui apprend pour quel ministère Dieu l'a mis à part. C'est donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, un bouton. C'est ce qui allait se développer dans la vie du grand apôtre. Mais à la fin, Dans Philippiens chapitre 3, nous voyons bien que la fleur, elle s'est ouverte, car l'apôtre Paul y confesse ouvertement sa résolution profondément ancrée d'atteindre quoi ? D'atteindre le but de cette course, le but qu'il formule en termes tout différents de ceux d'Ananias. Il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant le passé et tendant vers ce qui est devant moi, je ne pense qu'à courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14, selon la version allemande. La puissance d'attraction qui le faisait courir, c'était la claire intelligence du but à atteindre. Sa sensibilité sur ce point ne fait pas de doute. Il savait où il allait. Mais il était totalement incapable de limiter ses préoccupations à lui-même. Quelle est typique l'exhortation qui suit ? Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, eh bien Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Notez le verset 15. Donc on a dit Philippiens chapitre 3, n'est-ce pas ? C'est comme si l'apôtre Paul leur donnait un maître pour qu'ils puissent évaluer leur propre position dans la course. S'ils vivent pour un objectif moindre que celui que l'apôtre Paul leur modèle, on peut bien le dire, c'était leur modèle, qu'il a poursuivi, alors ils peuvent atteindre de Dieu qu'il le leur révèle également. Et quatrièmement, nous avons l'Église. Considérons enfin l'exhortation à l'Église. Par l'apôtre Paul, Dieu fait part à l'Église de sa glorieuse intention de voir son Fils posséder un corps par lequel il puisse s'exprimer. C'est là la glorieuse vocation de l'Église et sa destinée. La question qui se pose est celle-ci. Distingue-t-elle le but de son Seigneur ? Le bouton de la promesse lui a été donné, mais nous nous demandons comment il se fait que la fleur soit si lente à s'épanouir. Il semblerait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ait déjà été préoccupé de cette question. Il nous rappelle tous les fameux coureurs du passé qui observent maintenant ce qui se passe dans le stade. Ainsi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau ainsi que le péché qui nous enveloppe si facilement et courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux, chapitre 12, verset 1. Alors, à travers toute cette épître aux Hébreux, nous avons cette note d'exhortation qui résonne constamment à nos oreilles. Allons de l'avant, tendons à la pleine maturité. Elle ne peut être atteinte qu'au prix d'une vie vécue pour Dieu et à condition de réaliser son intention suprême. Essayons donc de comprendre quel est le but dans sa juste perspective. Il y a encore une autre loi qui régit la course dans laquelle nous nous sommes engagés, c'est la loi de la perspective spirituelle. À l'œil naturel, quelque chose qui est à distance paraît petit et sans importance, tandis que de tout près, nous voyons toutes choses dans une grandeur qui parfois nous impressionne. Supposons, chers amis, que vous suiviez des yeux une très longue suite de poteaux téléphoniques. Celui que vous avez près de vous paraît très grand, mais celui que vous distinguez là-bas à l'horizon n'est plus qu'une pointe d'aiguille, on peut dire comparativement. Il semble en être ainsi, car nos yeux nous disent que c'est vrai. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Si vous voulez entrer dans votre voiture et gagner ce point exact de l'horizon et regarder de nouveau autour de vous, vous constaterez que des grands changements presque incroyables se sont produits. Le poteau qui vous paraissait tout à l'heure avoir une telle importance a tout à coup diminué de grandeur au point de devenir insignifiant, tandis que celui dont vous faisiez si peu de cas a maintenant bien des fois doublé de dimension et d'importance. Celui des poteaux qui apparaissait le plus petit, quelques kilomètres avant, est devenu maintenant le plus important de tous. Eh bien, cette observation illustre ce qu'il y a de trompeur dans un examen des choses sur le plan naturel. Ce qui est visible, ce qui est temporel, peut faire paraître petit des objectifs qui sont spirituels et très éloignés. Ce n'est que lorsque un collyre a été appliqué à nos yeux que nous pouvons voir les choses dans leur divine perspective. C'est en se plaçant dans la perspective de Dieu que l'apôtre Paul pouvait écrire « Nos légères afflictions du moment présent, le poteau électrique tout près de nous, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18. Peut-être avez-vous fait l'expérience suivante. Une petite pièce de monnaie placée sur votre œil vous cachera la plus grosse étoile. Mais une grosse pièce vous cachera même le soleil. Naturellement, cela ne veut pas dire que la pièce d'argent soit plus grosse que le soleil. Elle est simplement plus près de votre œil. Cette illusion qui s'applique à l'espace s'applique aussi au temps. Si votre fils de 6 ans a un problème financier, vous pouvez mettre sa perspective à l'épreuve en lui demandant ce qu'il préfère d'une pièce de 1 euro maintenant ou peut-être d'un billet de le mois prochain, par exemple. À moins qu'il ne soit un garçon peu ordinaire, eh bien la somme de 1 euro qui serait donnée tout de suite lui paraîtra beaucoup plus importante que les fameux 5 euros disponibles dans un avenir de 30 jours. Vous vous souvenez que c'est cette forme-là, cette forme d'illustration qui a fait tant de tort à Ésaü. Car un soir, Ésaü rentre très affamé. Et Jacob lui dit, « Ésaü, si tu veux m'abandonner toutes les terres, le bétail, les marchandises et tous les biens qui s'attachent à ton droit d'aînesse, je te donnerai du potage. » Aux yeux d'un homme qui vient d'avoir un bon dîner, cette proposition paraît un peu ridicule. Mais Ésaü avait vraiment faim, et la faim peut modifier notre perspective au point de faire paraître une soupe aux lentilles excessivement importante. Je suppose qu'Ésaü a pensé « Qu'est-ce que cela peut bien me faire, ce qui arrivera demain ? Je ne peux pas me mettre à table et je veux le faire, pas demain, mais tout de suite. » Presque n'importe quel besoin, même le moins pressant, peut être maintenu si près de nos yeux qu'il nous cache tout l'avenir du dessein de Dieu. J'ai de la peine à mesurer l'attraction que peut exercer un plat de lentilles. C'est quelque chose qui n'a jamais beaucoup excité mon appétit, mais Ésaü a donné tout son avenir pour en avoir un. Il existe donc une divine perspective que Dieu a toujours voulu faire partager à tous ceux qui marchent dans sa lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 10. Marcher dans sa lumière nous aidera donc non seulement à garder parfaitement aligner nos poteaux téléphoniques, nos expériences, mais aussi à garder chacun d'eux dans sa juste et divine perspective. Il s'ensuivra que chaque but de moindre importance se fondera dans son but suprême. Celui qui perçoit des choses qui sont cachées à l'œil naturel, le visionnaire, par exemple, dans le bon sens du mot, c'est celui qui peut voir les poteaux à l'horizon à la même échelle qui lui apparaîtront quand il sera tout près d'eux. Il vit avec la puissance, il vit avec la perception et avec la perspective, on peut bien dire, de son but. Ça, c'est très important. Chers amis, voyez-vous, ceux qui ont été saisis par le mode de vie et l'objectif céleste sont marqués par un trait qui ressort chez eux avec plus d'évidence que tout le reste. C'est la joie. Ils ont appris à vivre par la force et à la source de la joie. En effet, l'apôtre Paul lui-même, de même que le Seigneur Jésus-Christ, le précurseur de notre course, a couru avec joie. Et nous verrons l'apôtre Paul et les chrétiens triomphant, tout, on peut dire, triomphant d'aujourd'hui, faire l'expérience de la joie aux trois temps, c'est-à-dire au passé, au présent et au futur. Et nous sommes appelés à la joie. Il n'est pas facultatif, mais il est impératif que chacun de ceux qui courent pour vaincre manifeste la joie marquée de la maturité. Mais s'il vous plaît, poursuivons notre étude sur la course dans l'arène. Nous allons maintenant diriger notre attention sur celui, oui, celui qui a déjà achevé sa course. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur, à la fois l'initiateur et le consommateur. C'est donc lui qui est pour nous l'assurance que nous pourrons, nous aussi, achever la course en lui et avec lui. Regardons à Jésus-Christ qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, selon Hébreux chapitre 12, verset 2. Il y a ici plusieurs expressions qui forcent notre attention. S'il en est parmi nos auditeurs qui ont considéré le chemin de la croix comme une impossibilité, qu'ils regardent simplement à Jésus-Christ. Regardez d'abord la joie qui lui était réservée. Pourquoi ? Oui, pourquoi cette joie ? Parce qu'il avait les yeux, non pas sur le chemin, mais sur le but. Quand le but est assez important pour nous, la question du chemin qui y mène est d'importance secondaire. C'est parce qu'il vivait avec son regard sur l'avenir, sur la glorieuse perspective de la joie qu'il allait procurer à son Père et à la plénitude de joie qu'il pourrait alors partager avec ses frères et sœurs, que Jésus-Christ endura la croix. Jamais je n'oublierai ces jours de ma vie au cours desquels j'ai cherché de tout mon cœur à vivre le chemin de la croix. Ma mort avec Christ était devenue si réelle pour moi et il me tardait d'embrasser cette œuvre de mort pour que la vie soit libérée en faveur des autres. Mais mon zèle peu éclairé éloigna les gens au lieu de les attirer. Or un soir, après la réunion, je surpris une conversation échangée, je peux vous le dire, par les jeunes amis que je désirais tellement aider. Et ils parlaient de moi. Bien sûr, j'ai dressé les oreilles. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Auparavant, on parlait de moi, n'est-ce pas ? Auparavant, il avait toujours le mot pour rire. Il plaisantait souvent, gentiment. Maintenant, il ne sait plus parler que de la croix et de la mort. Je connais quelqu'un d'autre qui parle que du 666, mais ça c'est encore autre chose. Ce qu'il est austère maintenant, car il a perdu toute sa personnalité. Alors j'étais évidemment, vous le comprendrez, abasourdi. C'était donc là l'impression que je faisais. J'allais dans ma chambre et je me persuadais que mon sort était celui de quiconque osait accepter que la croix s'enracine jusqu'au plus profond de son être. Et ce ne fut que plusieurs mois plus tard que le Saint-Esprit a pu me faire voir une distinction importante qui m'avait totalement échappé. J'appris qu'il y a une grande différence entre la sentence de mort est celui de mort, ou plutôt est de l'esprit de mort. Je répète cette phrase parce que je l'ai mal formulée. J'ai donc appris qu'il y a une très grande différence entre la sentence de mort et de l'esprit de mort. Car je savais, et j'en étais bien sûr absolument, que je devais tabler sur mon identification avec Christ sans penser seulement à moi, mais l'identification avec Christ dans sa mort. Et que Dieu avait infligé cette sentence de mort à tous mes membres. Mais je finis par voir qu'il n'en résultait pas que je manifestais un esprit de mort et un visage sans joie. Et cette simple distinction produisit une véritable émancipation dans mon esprit, heureusement. Alléluia. J'ai donc vu clairement une chose. Quand nous sommes ressuscités avec Christ, arrachés au tombeau, on peut le dire, c'est au vieil homme que la sentence de mort reste attachée. Elle ne doit pas toucher la vie nouvelle, c'est-à-dire le nouvel esprit. Nous devons être sous le contrôle de l'esprit de vie et de joie. Quelle différence d'être libre désormais de l'ombre de ce qui est passé. Mettons le passé définitivement derrière nous et de pouvoir enfin laisser Christ se réfléchir dans notre personnalité. Maintenant, le croyant, tout croyant a un passé, mais le croyant est plein de joie parce que ce passé est effectivement révolu. On a parfois de la peine et il y a des esprits mauvais qui se font un plaisir de nous rappeler certains faits pas très brillants de notre passé. Une chose qui apparaît avec tant d'évidence chez ceux qui ont été libérés d'une conscience chargée et de l'esclavage du péché, c'est qu'ils ne craignent pas de parler du passé. Personne ne prend plaisir à parler d'un esclavage qui continue à subir. Nous ne devons pas continuer à subir l'esclavage du passé. Ça vaut la peine de prier pour que le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous libère de certaines choses du passé. Une fois que nous connaissons la grâce de Dieu, nous connaissons la joie du pardon de nos péchés. Tant que nous ruminons le passé, nous ne pourrons jamais avoir la joie du pardon de nos péchés. Il y a de nombreux passages qui nous montrent que la rédemption nous confère le privilège d'être joyeux, heureux. Faisons notre joie de la paix que nous avons enfin trouvé et enfin réalisé avec Dieu. Romains 5, verset 1. Certains chrétiens ont la paix avec Dieu, mais ils ne sont jamais entrés en jouissance du bonheur auquel ce texte fait allusion. Ils continuent à vivre sous la tension et dans les sueurs de leur vie propre, dont ils restent dépendants, comme si elles n'avaient pas été crucifiées avec Christ. Vous avez été, nous avons été crucifiés avec Christ. N'ayons pas peur de le dire à l'ennemi haut et fort. Un autre passage est rendu par la version allemande. Nous faisons notre joie de notre rédemption. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Nous faisons notre joie de notre rédemption. Être racheté et ne pas se réjouir de cette rédemption semble une contradiction dans les termes. Et ceci encore du même. Nous faisons une joie, les uns et les autres, de notre accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Quelqu'un qui avait compris cette nuance disait « Ma plus grande joie est en quelque chose qui dépasse la joie. » C'est pas mal. Disons ça encore une fois. « Ma plus grande joie est en quelque chose qui dépasse de beaucoup la joie. » Mais qui comprend la joie, c'est le libre accès auprès du Père. Donc, chers amis, soyons bien sûrs de distinguer la véritable joie de ces contrefaçons, j'ai voulu dire chinoises, mais ne faisons pas cela, car il y a des très bonnes choses qui se développent en Chine. Il y a un bonheur qui a sa source dans les événements. Ce n'est pas forcément la véritable joie. Il y a une exubérance qui vient du dynamisme des puissances de l'âme qui représente la chair. Mais ça, ce n'est pas la véritable joie. La véritable joie, elle a sa source en Dieu et transparaît chez ceux qui sont devenus les familiers de cette communion avec Dieu. Il y a dans toute vie un jour où le croyant en finit avec les soupirs et commence à se réjouir. S'il n'en est pas ainsi, c'est que dans l'arène, sa course a été stoppée quelque part. Vous découvrirez, je crois, que ceux qui restent dans cet état de perpétuel soupirant sont ceux qui n'ont jamais été saisis par l'intention suprême de Dieu. Pardon. Quand il ne voit pas dans l'avenir la joie qui lui est réservée, car il y a quelque chose de merveilleux, le plus merveilleux, c'est dans l'avenir qu'elle nous est réservée, il ne trouve dans le présent, évidemment, aucune joie à laquelle il puisse sincèrement participer. Ce n'est pas tellement des soupirs inspirés par le péché ou par le besoin d'une victoire personnelle qu'il s'agit, plutôt que de ce que provoque notre œuvre pour Dieu. Elle ne nous satisfait qu'à moitié et nous exhalons le soupir d'un cœur qui aspire à quoi? Qui aspire à plus de fécondité. Voilà donc un piège que nous devrions éviter. Il ne faut pas que ce soit notre œuvre qui entre en ligne de compte, mais la sienne. Si c'est de notre œuvre qu'il s'agit, si c'est dans notre œuvre que nous cherchons une satisfaction. Nous n'avons pas appris que c'est lui qui doit devenir à la fois la source et la joie de notre activité. Cela me concerne également. Aussi, je répète, il ne faut pas que ce soit notre œuvre à nous qui entre en ligne de compte, mais la sienne, celle du Seigneur. Si c'est de notre œuvre qu'il s'agit, si c'est dans notre œuvre que nous cherchons une satisfaction, alors nous n'avons pas appris que c'est uniquement lui qui doit devenir à la fois la source et la joie de notre activité. Saint Paul aurait pu se laisser aller à des chants funèbres, surtout quand il déclarait que Timothée était en réalité le seul qui marchait dans le même esprit que lui pour la propagation de l'Évangile. Mais il était constamment dans la joie, même si les affaires du royaume étaient ou paraissaient être en régression. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « Je me rends bien compte qu'il y a dans ma vie des choses qui ne rendent pas tout le fruit que je voudrais, mais j'ai appris à être indépendant des circonstances qui pourraient empêcher que ce que je connais dans mon esprit ait une influence dans ma vie. J'ai appris que les ressources dont je dispose en lui, en Jésus-Christ, suffisent totalement à tout et que mon équilibre est donc ainsi assuré. » Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12. Aussi ne faut-il pas s'étonner que du fond de sa prison, Saint Paul puisse faire de la joie le thème de sa lettre. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi quelqu'un a pu dire « La joie est la force du peuple de Dieu, c'est sa principale caractéristique. Si vous vous laissez gagner par un esprit de dépression, du défaitisme, de l'amorosité, il sapera votre force même. Si vous ne faites rien, nous devons aussi faire quelque chose. D'abord, nous discipliner. Alors, qu'ils m'ont fait du bien, ces versets qui ont été tracés par une chrétienne qui travaillait en Chine. Personne ne peut douter que cette femme de missionnaire n'ait été visitée par Dieu et ne se soit identifiée avec son point de vue. Elle se mouvait dans cette atmosphère éternelle qui était sa, on peut dire, sa respiration même. Voici ce qu'elle a dit. « Seigneur, c'est ici ma place, à tes côtés. C'est ton chant que je chante. C'est à ton rythme que j'avance à grands pas, dans une joie qui monte toujours avec la force d'une marée. Depuis que je cours avec toi, Seigneur, dans l'arène, toutes mes notes se sont accordées sur ton mode majeur. La vie est devenue pour moi une superbe symphonie. » C'est pas merveilleux cela ? Merveilleux. Chers amis, avant de terminer par la prière, nous suggérons à tous ceux qui ne peuvent partager leur joie dans leurs circonstances présentes que la cause de leur échec se trouve peut-être dans leur insensibilité à la joie que l'avenir leur réserve. C'est une fillette, voyez-vous, de 10 ans qui avait saisi un jour le vrai sens de la joie. Elle a dit « Papa, il me semble que je n'ai jamais autant de joie dans le cœur que quand j'ai réussi à t'en donner. » C'est pas beau, ça? Sa joie était devenue créatrice, quelque chose dont elle pouvait jouir sur le moment, mais aussi par anticipation. La joie n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est elle qui nous cherche quand nous nous efforçons de créer, de sortir de nous-mêmes et de vivre pour ce qu'il y a de plus grand, pour l'absolu. Cette joie, par anticipation, est d'une espèce toute particulière. On ne saurait la représenter mieux que par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert. Il ne s'agissait pas de la joie de ce que ou de ce qui lui arrivait à lui, mais de la joie de ce qui arrivait par lui. Répétons cela. Il ne s'agissait pas de la joie de ce qui lui arrivait à lui, mais de la joie de ce qui arrivait par lui. C'était donc une joie créatrice par nature. Si nous pensons à la joie comme conséquence de ce qui nous arrive, cadeau que nous allons recevoir, considération qui nous est témoignée, alors notre joie n'est pas la véritable joie. C'est quelque chose de précaire qui révèle un manque de maturité. Quand c'est le moi qui est au centre, tout le reste, même la joie, se trouve décentré. Une joie éprouvée dans de telles conditions ne saurait être durable. C'est, on peut dire, c'en est assez de cette attitude qui ne s'ouvre au monde extérieur que subjectivement et qui rapporte tout à soi-même. Nous pouvons dire que la maturité dépend d'une attitude objective et désintéressée devant la vie. Quand l'apôtre Jean écrit « Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite » 1er épître de Jean, chapitre 1, verset 4. Là, il fait allusion à la joie qu'auront ses correspondants en apprenant par cette lettre quelques éléments nouveaux de la pensée divine. Il ne se soucie pas de ce qu'il pourrait gagner lui, mais de ce que les autres pourraient gagner par lui. C'est là qu'est la différence entre un bonheur passager et la joie qui demeure. Quand l'apôtre Paul écrit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » C'était aussi à cause de ce que Dieu accomplissait par lui. Et il ajoute, « Vous aussi, réjouissez-vous d'eux-mêmes. » Comme cette attitude est différente du témoignage de ceux qui réclament les prières de leurs frères et sœurs pour que eux-mêmes soient fidèles dans leur course. Le chrétien triste et morose qui va se lamenter des ennuis qu'il a comme chrétien, ce chrétien révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de lui-même. il est plein de conflits intérieurs et d'attitudes fausses à l'égard de la vie. Car la joie est le fruit de l'harmonie intérieure. Quand il n'y a pas de guerre civile au-dedans de moi, quand toutes choses sont sous un gouvernement unique et dirigées vers un seul but, alors la joie en est inséparable. On ne la cherche pas, car elle est là, inhérente, et elle est là en permanence. Ce n'est pas une présence capricieuse. Les conditions qui la conduisent, elles font partie intégrante de la vie. La joie, nous l'avons pas, pourrions-nous presque dire. C'est elle qui nous a. Je répète, la joie, nous ne l'avons pas. Ça, on pourrait le dire, car c'est la joie qui nous a. Ça change tout. Chers amis, nous allons donc maintenant prier ensemble. Seigneur Dieu, dont nous implorons en cet instant la bénédiction et la protection divine, tu es le maître de nos vies et c'est ta volonté qui règle l'univers tout entier. De quel côté que l'homme se tourne, il voit paraître les effets de cette sagesse et de cette volonté, et en lui-même, il les sent s'accomplir. Pourrait-il le nier lorsqu'il considère les mystères de son existence et de son organisation, lorsqu'il se voit faible et petit enfant, dénué de toute force et frêle comme le bourgeon le plus délicat. Croître, se développer, parvenir à la stature et à la vigueur de la jeunesse et de la maturité de son âge, puis commencer à s'affaiblir, à perdre par degrés les facultés qui forment son riche apanage, puis s'endormir et disparaître, disparaître dans la poussière du sépulcre. D'où vient à l'homme l'inconcevable aveuglement qui l'empêche de reconnaître combien il est dominé par ta volonté sainte? D'où vient que cette idée lui est pénible, voire importune? C'est qu'elle blesse son orgueil. Elle lui fait sentir toute sa culpabilité, car il n'est point soumis à cette volonté qui le domine. Il se révolte. Il lutte contre elle. Seigneur, daigne-nous préserver du malheur de l'offenser ainsi, de t'offenser. Aide-nous à accepter en toutes choses les manifestations de ta sainte volonté. Aide-nous à trouver dans la dépendance où nous sommes tout ce qu'elle renferme de bonheur et de joie. Un complet affranchissement à cet égard serait pour nous le comble de la misère. L'homme qui brise le vil, ou plutôt le fil invisible, est protecteur, ce fil protecteur qui le conduit, ne peut plus que se précipiter dans l'abîme. Ô Dieu, garde-nous par ta puissance et mets dans nos cœurs un ardent et sincère désir d'accomplir en tout ta volonté. que ce ne soit pas des lèvres seulement que nous te demandions qu'elles soient faites sur la terre comme au ciel. Si par elles nous revoyons demain la lumière d'un jour nouveau, que ce soit pour te le consacrer, oui, pour te servir et pour te prouver notre amour par notre obéissance. Nous ne le pourrons qu'en sentant de plus en plus le prix du salut qui est en Christ, qu'en obtenant les secours de ton Saint-Esprit et de ta grâce, et en vivant par la foi et dans la foi. Seigneur, daigne exaucer nos imparfaites prières par le saint nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain, pour la suite, Dieu voulant, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.